Musicale pas banale.
Une émission musicale présentée par Laurence Pierre sur France Inter du lundi au jeudi de 23h15 à minuit.
Frissons, émotions, partitions. Tous les soirs du lundi au jeudi après le gros journal 23h15 minuit. Addiction.
À écouter sans modération.
Sans modération.
France Inter.
La voix est libre.
15h04 sur France Inter, tout de suite Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Message à tous les cathos en recherche d'une nouvelle croisade, d'un nouveau combat. En ce moment même, la nuit, le jour, sur tous les continents, une compagnie tentaculaire joue avec vos vies, celles de vos enfants, en pratiquant des expériences d'apprentis sorciers partout, dans vos champs, vos jardins, vos élevages, dans vos assiettes, l'assiette de vos enfants, en modifiant génétiquement votre nourriture, votre eau, votre terre, provoquant avec leurs OGM et poisons en tout genre une explosion des cancers et recrudescence des maladies et malformations génétiques dans toutes les populations, sans distinction d'âge, d'origine ou de sexe. Qui est cette compagnie qui ose défier les lois immuables et éternelles de la vie en la modifiant de manière transgénique? Cette compagnie se dissimule sous le nom de Monsanto, mais son vrai nom, je vous le révèle, est Monsatan.
Comment font-ils ceux qui ne partagent pas mes calculs? Calme, luxe et volupté, ceux qui restent dans leur bulle. Comment font-ils ces assis dans la vie pour avoir peur des baobabs?
Bonjour les AMG, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 23 avril, il est environ 17h. Et la loi pour le mariage pour tous a été votée à l'Assemblée. Un peu de musique.
C'est le jour J. J comme je t'aime, J comme je t'aime, Barbara. J comme je t'aimerais, comme je t'aime aujourd'hui.
Voilà, vive le mariage pour tous. À bientôt, ciao ciao.
Moi aussi, je ne suis pas pour le mariage religieux des homosexuels. D'ailleurs, le pape, les rabbins, les imams ne célèbrent pas de mariage homosexuel dans les églises, les mosquées ou les synagogues. Mais alors, il est où le problème? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces calotins à faire chier la République et les élus du peuple? Que je sache, on n'a pas manifesté dans les églises pour imposer le mariage des prêtres, non? Ils ont un pape tout neuf et ça leur suffit pas pour occuper leur temps libre?
La vérité, c'est que j'ai toujours été fasciné par les extraterrestres. Et pour une fois que j'en vois un vrai extraterrestre, tu crois que je vais dire où il est comme ça? Non, il est... qu'est-ce qu'il faisait cet extraterrestre? Un extraterrestre, tu crois que je vais dire où il est, comment il est fait et où est-ce qu'il va? Tiens, moi aussi je communique par geste, tiens.
Bon, alors, gilet pare-balles, c'est bon. Pistolet mitrailleur M4, chargeur de rechange, ballot, mercure... Et balle perforante, c'est bon. Beretta 92FS, c'est bon. Grenade, c'est bon. Couteau de combat, c'est bon. Bon, ben, je vais pouvoir me rendre à mon nouveau job. Ouf, en route pour les Hauts-de-Seine.
Hier, le chasseur de tête explosait. Aujourd'hui, les cow-boys de l'humanitaire. Franchement, où vous va t'arrêter, Daniel? Je ne peux plus, mais j'en veux encore!
Eh ben, ça risque de vous faire plaisir à nouveau, l'heure que nous allons passer aujourd'hui ensemble. Je vais vous faire une confidence maintenant qu'on se connaît depuis toutes ces années. Quand je mets la table, ça m'arrive très souvent, je ne sais jamais s'il faut mettre le couteau, la fourchette à gauche et le couteau à droite. J'ai jamais su. De toute mon existence, déjà un peu longue, j'ai jamais réussi à apprendre. C'est dire si j'ai des carences. J'ai quand même réussi à apprendre un truc dans mon enfance, enfin, quand j'ai grandi un petit peu, c'est qu'à la fin du repas, quand on arrive au dessert, il ne faut pas retourner son assiette. C'est ce que je faisais quand j'étais môme. On a mis une assiette et puis à la fin, on l'essuyait avec le pain, puis on la retournait, puis on mettait le dessert sur le dos de l'assiette. J'ai appris que c'était vraiment un truc qu'il ne fallait pas faire. Chez certains, que je connais, on se contente de d'essuyer l'assiette bien avec le pain. Chez moi, on disait ratrucher. Bon, et alors certains essuient, quand ils mettent le dessert là-dedans. C'est une question de degré, vous voyez, de civilisation. C'est un peu dans les mêmes quartiers, c'est un peu les mêmes gens qui ont un peu la même histoire. C'est dire si nous avons besoin d'être éduquer, d'apprendre un petit peu les belles manières, et c'est ce que nous allons faire, jusqu'à 16 heures dans la basse, si j'y suis, si je vous dis majordome, gouvernante, servante, suivante, etc. Vous voyez autant de figures qui évoquent le passé, l'Ancien Régime, la littérature, vous voyez le couple maître et valet, le maître et son valet, ou bien la comtesse, la maîtresse, la madame, avec sa suivante. C'est des thèmes inépuisables de la littérature, de nos imaginaires, de notre histoire avant tout, et on guette toujours le moment où le rapport s'inverse, le moment où le dominé prend le pas sur le dominant. Alors on se dit, d'accord, c'est des thèmes formidables, ça, c'est symbolique et métaphorique, des rapports sociaux, etc. Mais enfin, cette métaphore-là, aujourd'hui, ben, elle appartient au passé. Eh bien, vous allez voir, pas du tout. Pas du tout. Swift avait écrit un remarquable et inégalable ouvrage intitulé « L'instruction aux domestiques », au 18e donc, Swift. Et il incitait les gens de maison à la révolte en sabotant le boulot. Voilà, c'était sa façon de contribuer à ce qu'elle est devenue, aux lumières, à la révolution et au renversement des choses. Eh bien, on va voir qu'aujourd'hui, à côté d'où nous sommes, ici, dans le 16e arrondissement, dans cette périphérie, les choses n'ont pas aussi autant changé que le bon vieux Swift l'aurait souhaité. Et on va apprendre les bonnes manières pour certains d'entre nous et certaines d'entre nous qui en ont bien besoin. Et c'est une instruction aux domestiques que nous vous proposons aujourd'hui. Majordome, gouvernante, plaît-il maître ? Les plaît-il maître n'auront plus cours, disait Brassens. On va voir que ces plaît-il maître ont toujours cours et se portent bien à travers cette instruction aux domestiques d'un nouveau genre. Un reportage d'Anaël Verzo auparavant. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, l'Union locale CGT Sud-Côte d'Or organise une réunion d'information suivie d'un débat sur les conséquences de l'ANI, c'est-à-dire l'accord flexibilité. Cette réunion se déroulera le jeudi 25 avril à 18h, porte Marie de Bourgogne. Merci de votre présence. À bientôt. Bonne journée.
Un jour, tôt ou tard, il se pointe. On veut coller au décor. Un CDI avant 30 ans et accession à la propriété dans le même temps. Soyons lucides. Nous, petites gens, n'avons pas les moyens de payer un loyer toute notre vie. Et puis en effet, il arrive. Le prix à payer pour tous ces rêves de magazine. Pourtant, la tête va bien, mais le corps dit stop. C'est le burn-out. Alors aujourd'hui, oui, je peux le dire. Ce burn-out et ces 6 mois d'arrêt maladie m'ont permis de réaliser pas mal de choses. Et notamment, d'arrêter de courir après une chimère sociale et économique standardisée. Et puis, je suis tout naturellement heureux, parce que c'est salutaire, de pouvoir me compter parmi les 580 000 fainéants, dangereux, déviants, qui osent aller voir là-bas si j'y suis. C'était le Tartier de Lille.
Mes frères, mes sœurs, prêtez-moi l'oreille, car enfin, je vous le dis, je vous apporte en ce jour merveilleux, en ce jour béni, la sainte vérité, l'unique vérité. Vous qui par milliers marchez, par millions même au son de « pas de mariage pour les pédales », cessez, oui, cessez dès à présent vos joutes interminables physiques et verbales. Cessez vos cris, cessez vos luttes, car vous vous éloignez sans cesse de la parole venue des cieux, de la parole sainte de Dieu. Vous qui vous dévoyez, dévoilez-vous et voyez. Voyez ces hommes vêtus de robes, d'étoffes rares et de dorures, qui tous amoureux d'un même homme, se sont avec lui tous mariés. Lui ont promis fidélité, ont avec lui tout partagé. Oui, Dieu approuve le mariage gay. Et abondamment le consomme avec des centaines de milliers d'hommes en une partouze phénoménale qu'on peut bien qualifier d'énorme. Et Dieu approuve l'insémination et l'adoption à profusion, ayant avec ses compagnons des milliards de mômes si mignons, qui disent mon père à leur curé et disent mon père qui êtes aux cieux. Ils ont tous bien deux pères homo malgré ce que dit Frigide Barjot. Alors à vous, blasphémateurs, qui reniez votre Créateur, à vous tous, très chers frères et sœurs, revenez donc dans la lueur, dans la sainte lumière du Sauveur, et laissez l'amour décideur, laissez l'amour libre comme l'air, libre de choisir son bonheur.
Ça y est, j'ai adhéré à la MAMU.
Ah bon? Et qu'est-ce donc là que la MAMU?
La MAMU, c'est la Matmut Santé.
Alors, Sébastien, est-ce que cette cuillère peut se mettre à table?
Non.
Non, pourquoi?
Ça, c'est une cuillère à thé.
Oui, c'est ça. Et... La fourchette à gâteau se mettait à la table.
Oui.
C'est votre dernier mot?
C'est-à-dire que...
Faites-moi le positionnement des couverts à dessert à la française.
Alors, non, effectivement.
La bonne formule, c'est ça. C'est le couteau au milieu et les deux couverts croisés. Donc, la fourchette à gâteau, à votre avis, vous continuez à dire que c'est effectivement qu'on pourrait la mettre? La fourchette à gâteau?
Non.
La fourchette à gâteau?
Oui, si on peut la mettre, mm-mm, à la place de celle-ci. Mm-mm. Ça dépend de la taille de l'assiette, éventuellement, madame.
Je réitère, est-ce qu'on les met à table?
Non, madame.
Bon, c'est
non.
Est-ce que vous en êtes sûre ou pas?
Oui, madame.
Bon, donc la fourchette à gâteau à table, c'est
non.
Non, oui.
Non.
Non, oui. La fourchette à gâteau, c'est uniquement utilisé quand il y a un goûter dans une maison.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verzo. La joie de servir ou le bonheur dans la soumission.
Flight number 2, arriving from New York.
On va prendre les règles d'or du métier. C'est une récapitulation un peu de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vu un peu dans l'ensemble de cette formation. Depuis 5 semaines... Est-ce que vous pourriez un peu me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce métier? Alors, la confidentialité, c'est absolument oui.
L'écoute,
oui. L'écoute, la discrétion, oui. Adaptabilité, je ne l'ai pas mis, mais flexibilité, on est d'accord. Oui. Le savoir-être, oui.
La pratique des bonnes manières.
Oui. Donc moi, j'ai appelé ça l'esprit de service, hein, qui est semblable à celui que l'on trouve dans le monde du luxe. Et il faut avoir quoi encore? Le bon jugement. Oui, bah tant pis, c'est terminé. Le bon jugement. Le non-jugement. Le non-jugement, très important. Le non-jugement. Le bon jugement, c'est vrai aussi. Mais le non-jugement, ça c'est très important. Pas de débordement de langage, ne jamais crier, ne jamais, jamais s'énerver, ne jamais déborder. Écouter, ne pas vouloir avoir raison, ne pas se justifier bêtement, mais jamais, avec votre patron surtout, ne jamais lui rétorquer. On n'est pas sur le même pied. Hein, hein. Il faut entendre les reproches, ponctuer avec « oui monsieur, je suis désolé, excusez-moi, je ne comprends pas ce qui a pu se passer, permettez-moi de vous donner ma réponse ou de faire un peu l'analyse de ce qui s'est passé et de revenir vers vous si vous me l'autorisez tout à l'heure, etc. »
Il ne faut pas rentrer en conflit,
parce que quelquefois, vous avez des gens, il faut quand même bien voir que dans le métier que vous allez faire, vous allez vous trouver en face de toute diversité possible de gens. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des sautes d'humeur énormes, parce que plus on est dans un milieu d'argent, de stress, de responsabilité, plus on a des gens lunatiques. C'est normal. Vous arrivez, vous devez être cette espèce de what dans laquelle, quoi qu'il fasse, il n'y a jamais de prise. Parce que c'est ça qui va les réconforter, même s'il vous passe un savon dès le réveil, vous ne savez même pas pourquoi. J'ai une de mes gouvernantes de maison avec qui j'ai beaucoup de liens, là, qui était mon élève, pas cette dernière, mais l'année d'avant, qui me dit qu'elle est dans une famille comme ça, où elle a une maîtresse de maison terrible, et qui en même temps l'adore. Elle l'adore parce que justement, elle pas de prise. C'est la ouate. Et c'est ça la grande qualité de cette gouvernante. parce que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes intérieurs, cette dame. Et en même temps, elle est accrochée à cette gouvernante, parce que justement, elle peut y aller tous les matins avec sa crise de nerfs, et ça glisse sur les plumes d'un canard. La première personne sur qui elle peut taper, c'est la gouvernante. Et après, elle la couvre de cadeaux ou de gentillesse à d'autres moments. Hein. Alors, ayez toujours cette attitude, les plumes d'un canard. Ça ne veut pas dire qu'il vous agresse, vous, personnellement. Il agresse la terre entière. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à ça, quittez le métier tout de suite. Même pas la peine de rester. Ça fait partie du métier.
Mais non, c'est pas l'école de formation des journalistes. C'est l'école de formation des majordomes. Où nous nous trouvons aujourd'hui avec Anaëlle Verzeau. Voilà ce qu'il faut comprendre, voilà ce qu'il faut intégrer si vous voulez devenir majordome dans une grande maison, devenir comme de la ouate, que les gouttes d'eau passent sur vous comme sur les plumes d'un canard. Voilà la formation que vous pouvez recevoir si vous voulez, si vous souhaitez, si vous rêvez. Peut-être, mais pourquoi pas devenir majordome, on verra aussi gouvernante, un métier d'avenir. Et oui, ces métiers-là ne sont pas du tout, n'ont pas du tout disparu. C'est pas parce que les chambres de bonne sont devenues des appartements que les bonnes ont entièrement disparu. Et ça tombe bien, quelqu'un disait, c'est la bonne qui fait le bourgeois. Eh bien, la bonne est toujours là. Alors, je le disais en commençant, souvenez-vous de la pièce de Bertolt Brecht, Maître Puntilla et son valet Matty, ou bien de Planchet et d'Artagnan, ou bien même de Sancho Panza avec Don Quichotte. Il y a toujours le petit gros, gras, pas très beau, sur son âne, tandis que le maître, lui, est sur un cheval de race avec son panache et sa belle moustache et sa belle épée. Il y a celui qui sert l'autre. Mais il y a un moment où les choses peuvent tout à fait s'inverser. Le maître sera tantôt odieux, tantôt protecteur. Le valet sera servile, un peu idiot, un peu naïf, un peu niais. Mais il y a un moment où son bon sens naturel, paysan, reviendra sur le dessus et où le dominé prendra le pas sur le dominant. Je me souviens de Johannesburg en Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid, au moment de l'abolition de l'apartheid. Et nous avions dîné chez des belles, bonnes familles blanches de Joburg. Et un peu avant minuit, le dîner était tout à fait délicieux, évidemment servi par une servante noire. Soudain, la dame, la servante, est partie. Alors on a posé des questions, on a dit, mais alors, elle est partie. Et oui, nous ont confié nos hôtes, c'est que il y a une rumeur, ces temps-ci, qui veut qu'un jour prochain, mais imminent, tous les domestiques de cette ville ne sautent au cou de leur maître à minuit, pile et les égorge. Alors, libérez leurs domestiques avant minuit. Cette peur du retournement est une très très vieille histoire, symbolique évidemment de la nôtre, d'histoire la nôtre à tous, mais enfin, peut-être un peu plus en France, pays de la Révolution, où les pauvres ont demandé leur part du gâteau, et pas forcément d'une façon toujours très polie, avec toute la courtoisie, pas toujours en s'essuyant les pieds devant la porte du maître en tenant son chapeau à la main et en disant « plaît-il maître ?» On peut avec Max Weber s'étonner en disant que s'il ne fait aucun doute que des révoltes ont existé, ce qui appelle manifestement une explication, c'est plutôt le fait qu'elle n'ait pas été beaucoup plus fréquente. Avec l'instruction aux domestiques à laquelle nous allons participer aujourd'hui, rassurez-vous, elles ne seront pas fréquentes. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. La joie de servir ou le bonheur dans la soumission.
Voilà. Alors effectivement, en dessous de ce machin d'argent, il n'aurait pas fallu aller mettre, par exemple, une faïence. Ça n'aurait pas été du tout, vous voyez.
J'aime à me promener dans la riche splendeur à venir et passer du château intérieur.
Mais il faut voir, ça aurait pu être un plat de cristal, ça aurait pu aller.
Dans le radieux patio, plein d'oiseaux et de fleurs, entre les marbres chauds.
Attention de ne pas mélanger les styles n'importe comment non plus.
Bah, et saigne le cœur, le salon resplendit de lustre, de cristal, de musique, de cris, sur la houle du bal. Dans la salle d'eau fraîche,
il y a des styles très différents qui peuvent. On peut mettre du moderne avec du 18e. Mais attention.
Peuplé de paravents, corps et linge se sèchent au doux soleil levant. J'aime aller venir dans l'horrible splendeur du meilleur et du pire au château intérieur.
Faut le manier aussi là avec un peu de doigté. D'accord?
Il y a des peintures un peu partout. Oh là là, c'est immense. Là, je repasse de l'autre côté.
Parce que là, il y a peut-être 1200, 1300, 1500. Il y a au moins 500 mètres carrés sur le retour. Il avait des. Mais ça, il ne faut pas l'enregistrer.
Ah. Non, non, parce que ça. Non.
Ah oui, ah, voilà. Alors, vous voulez prendre un petit peu de pause? Alors, prenez une pause. Ouvrez les fenêtres si ça vous fait. Alors, pas ça, parce que je crois que ça coince. Mais ouvrez là où vous voulez. Voilà.
Donc on est chez Madame de Valroger. Vous, vous donnez des cours en fait. Vous faites la formation des majordomes.
Oui, alors je fais une partie de la formation. Hein. Je fais la partie, je dirais, des modules un peu plus, qu'on appelle les modules un peu plus haut de gamme, un peu plus les modules de prestige. Toutes les finesses du métier, toutes ces valeurs un petit peu de distinction.
Comment vous avez appris tout ça? Ça fait partie de votre éducation propre?
Je suis de la génération des 60s déjà, vous voyez. Bien évidemment, ce qui me concerne, c'est uniquement par mon éducation personnelle et le fait que dans ma famille, on était très attachés aux valeurs des transmissions, aux valeurs traditionnelles, aux valeurs familiales et surtout, on recevait beaucoup.
Par contre, vous n'avez jamais été gouvernante de luxe?
Non, je n'ai jamais exercé ce métier. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans le domaine du tourisme d'affaires. Et puis ensuite, j'étais directrice d'une boutique de cristallerie pendant 9 ans, à Paris, voilà, près de la place Vendôme. Voilà.
Et vous-même, j'imagine, vous devez avoir un majordome chez vous, dans votre maison, dans le Cantal?
Non, 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 non. Nous vivons très simplement, comme tout un chacun maintenant. Nous faisons tout nous-mêmes, mais nous avons souvent des gens qui viennent nous aider. On a plutôt des femmes de ménage, on a des jeunes filles au père, on a des jeunes femmes. Moi, j'ai des gouvernants, mes élèves qui viennent en stage chez moi l'été, mes gouvernantes d'enfants. Voilà. Mais nous avons eu du personnel autrefois, et j'ai le souvenir dans mon enfance d'avoir vu du grand personnel, voilà, dans les familles de nos grands-parents. Mais maintenant, tout ça est un peu fini, même si on connaît encore très bien le métier.
Voilà. Vous dites ça avec la larme à l'œil, hein. Je sens que ça vous émeut.
Non, 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 j'ai aucun regret de tout ça. Enfin, j'ai le regret parce que c'était très agréable, mais je n'en ai aucun regret effectif. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, c'est... Voilà.
Vous êtes plus simple maintenant.
Oui, maintenant, on vit convivialement, on vit avec nos petits-enfants dans nos jupons, comme on dit. On passe notre vie à s'occuper des uns des autres, comme dans toutes les grandes maisons et les bonnes maisons. Faites pas passer le buste de Louis XIV qui est sur la cheminée au milieu de la table, on est d'accord, hein.
C'était pour nous, vous venez ?
Eh ben, je pense. Ouais, on était faire les prendre des cours de cuisine, c'est ça ?
Ouais, on était faire les courses, là.
On va élaborer des entrées. Voilà, on va se mettre au travail, là.
Et vous, alors, vous êtes ?
Nous, on fait une formation de majordome qui dure 5 semaines.
Vous avez déjà travaillé chez quelqu'un, chez un particulier ?
Oui, moi, en tant que chef de cuisine, j'ai une expérience d'une dizaine d'années. Mais je n'avais pas la formation de majordome, donc avec cette formation, je vais pouvoir postuler à des postes plus intéressants.
Financièrement aussi,
j'imagine. Aussi, et puis sur l'étranger, car je suis trilingue.
Vous parlez quelle langue ?
Je parle l'anglais, le portugais brésilien.
Alors ça, c'est un atout.
Complètement, parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas bilingue au minimum, on aura beaucoup de difficultés dans cette mondialisation de trouver du travail. Mais moi, c'est plus sur l'Angleterre ou peut-être des paradis fiscaux, des endroits comme ça.
Je vois, vous êtes bien habillé, hein, vous avez mis la cravate,
oui,
vous avez
alors,
les cheveux bien coiffés.
Je dirais qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu moins bien habillé que les autres jours parce que ça a été un peu la course ce matin. Mais on fait toujours l'effort et on essaye de s'habiller en costume tous les jours, d'avoir la tenue presque parfaite. Voilà. Donc, quand on est attendu au tournant, on est quasi parfait. Et puis dans des jours plus détendus comme ça, on fait l'essentiel. Mais,
Alors là, vous avez une salade dans la main.
Du mesclun. Pour l'entrée de demain, pour faire une belle entrée, accompagner notre entrée chaude, il y aura du chaud, du froid, du croquant, du crémeux. On va utiliser siphon, on va faire quelque chose d'agréable, j'espère, pour le palais.
On va rentrer ?
Oui.
Vous coupez le pain ?
Tout à fait.
Et alors, c'est des tout petits morceaux de pain que vous faites, c'est exprès ?
Oui, c'est fait exprès, on va faire de la tapenade.
Vous venez de quel milieu social ? Vous faisiez quoi ?
Mes parents étaient employés, tous les deux. J'étais en Normandie et je suis venu sur Paris pour pouvoir faire ma carrière.
Ils étaient employés ?
Tout à fait. L'industrie et l'industrie, tous les deux. Voilà.
Ils étaient ouvriers, donc ?
Voilà.
En Normandie ?
Voilà.
Où ça, à Cléon ?
Tout à fait.
Ah bon ?
Vous connaissez ? Ah oui, c'est marrant ça.
Ça change, hein ?
De
passer de monde ouvrier à monde du luxe.
C'est sûr que mes parents, ils sont très fiers de voir que je réussis dans ce domaine.
Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur ?
Je suis en train d'écloter du cercueil. J'ai travaillé dans un grand hôtel de luxe.
Et vous, là, vous voulez changer de parcours, devenir majordome ?
Voilà, c'est ça, c'est une reconversion. Moi, je suis issu d'une famille très modeste et j'ai toujours travaillé. J'ai fait une école hôtelière et j'ai toujours travaillé. J'ai eu la chance de toujours travailler dans des restaurants luxe. Donc, j'ai été tout de suite confronté, dès mon plus jeune âge, à une clientèle exigeante et habituée à être servie.
Ça ne vous dérange pas de servir des personnes ?
Oh non, pas du tout. Au contraire, on est là pour amener un service. Je veux dire, un service, c'est quelque chose dont les gens... ne peuvent pas se passer, donc...
Parce que le charcutier, c'est vrai qu'il sert aussi des gens, mais il sert tout le monde.
Bien sûr.
Mais vous servez pas tout le monde, vous servez...
Sauf que là, moi, j'ai ciblé mes employeurs avec un souci d'excellence, un souci de qualité, un souci de faire extrêmement bien les choses.
Il faut vous payer combien ?
J'ai pas bien compris la
question.
Votre
salaire, il serait de combien ?
Et ça, ça ne regarde que mon employeur et moi.
Tout est très secret, hein ?
Bien sûr, bien sûr.
Pourquoi ?
La discrétion. La discrétion est le nerf de cette activité. On ne peut pas se permettre de parler de ce que l'on fait chez un particulier à des inconnus. C'est leur vie privée. C'est leur vie privée, c'est la mienne en même temps. Donc ça ne regarde absolument personne.
Et qu'est-ce que vous pensez alors du majordome de Liliane Bettencourt qui a mis des...
Vous appelez ça un majordome, vous ?
Bah oui, c'est son...
Ça, c'est un homme à tout faire.
Ah bon ?
Et un truand en plus.
Mais lui, il dit quand même qu'il a fait ça pour son bien.
Il n'a pas à juger de ce qui est bien ou pas bien pour Madame Bettencourt. Ça ne lui appartient pas. Lui doit rester à sa place, doit être discret, et il doit rester à sa place. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment un gangster, ce type.
Il est l'homme par qui le scandale est arrivé, Pascal Bonnefoy, l'ancien majordome des Bettencourt.
Itélé.
De mai 2009 à mai 2010, pendant un an, il met sur écoute à leur insu les visiteurs de la milliardaire dans une salle de son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine.
21 mars 2013.
En tout, 21 heures d'enregistrement qu'il donne ensuite à Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt, qui les transmet, elle, à la police. Françoise Bettencourt-Meyers tente alors de prouver que sa mère malade est victime d'abus de faiblesse, mais ses écoutes clandestines font surtout éclater le volet politico-financier de l'affaire. Elle montre l'immixtion de l'Élysée dans la procédure judiciaire entre la fille et la mère Bettencourt. Elles illustrent également la proximité entre Éric Woerth, alors trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, et le gestionnaire de la fortune de la milliardaire Patrice de Maistre. Naissent alors des soupçons de financement politique illégal. Lors de son audition en juillet 2010, Pascal Bonnefoy a confirmé la présence de Nicolas Sarkozy en personne au domicile des Bettencourt pendant la campagne présidentielle de 2007. Mis en examen en avril 2012 pour atteinte à la vie privée, le majordome affirme avoir réalisé ses écoutes car il ne pouvait laisser l'entourage de la milliardaire profiter d'elle sans rien faire.
Mais il faut que vous la souteniez. Valérie Pécresse, c'est la ministre de la Recherche.
Voilà, tout le monde a écouté cette bande extraordinaire où l'on entend, vous entendez derrière moi, Patrick de Maistre, le gestionnaire de fortune de Madame Bettencourt. Tout le monde connaît cet enregistrement. Alors effectivement, il a été fait par un majordome, puisque nous sommes avec les majordomes aujourd'hui, par Pascal Bonnefoy, qui est la figure du majordome, serviteur peut-être, mais enfin magnifiquement rémunéré. On a avancé un chiffre de 8000 euros par mois. Ça a peut-être inspiré des vocations parmi ces jeunes gens avec qui nous nous trouvons. Les majordomes, c'est des personnages liés à, effectivement, à l'histoire de notre société. Aujourd'hui, les grandes maisons françaises, l'aristocratie n'a plus les moyens toujours de se payer ce genre d'employés, mais on trouve voilà, en France des familles riches étrangères qui recrutent des majordomes qui sont des sortes de cadres, des sortes de chefs de service qui organisent le personnel de maison, jardiniers, cuisiniers, femmes de ménage, maîtres d'hôtel, gouvernantes, etc. C'est leur boulot de diriger tout ça. Majordome, c'est aussi un mot qui évoque le Vatican, l'ex majordome du pape, on s'en souvient, à la fin 2012, avait été l'objet d'un scandale formidable. Il est passé devant la justice du Vatican dans le cadre du scandale Vatilix. Donc c'est des personnages importants et on voit qu'il y a le moment, effectivement, où il y a un basculement, un retournement, où le serviteur, avec toutes les réserves qu'il doit évidemment, par définition, observer, eh ben, ça se retourne, il est au courant de beaucoup de choses. C'est la scène classique hein, de la confidente qui en sait plus que la maîtresse ou le valet qui en sait plus que le maître et qui, de cette façon, prend le pouvoir. C'est le renversement du dominé au dominant, du faible au fort. C'est cette relation compliquée que cette figure du majordome, de la gouvernante, du serviteur incarne. Retour à la cuisine.
Vous êtes au champagne là, hein?
Non, je suis au gâteau.
Au gâteau déjà.
Et c'est pour ramollir le gâteau que je bois du champagne. Voilà.
Comment vous vous appelez, monsieur?
Patrick.
Et là, vous êtes en formation?
Je suis en formation, donc de 5 semaines pour être majordome. Mais moi, c'est encore différent parce que je vais être butler. Butler, c'est le majordome, mais dans l'hôtellerie de luxe. C'est ce qui va se faire maintenant dans le futur, dans l'hôtellerie de luxe. Et donc, les clients qui vont venir d'étranger auront une personne attitrée qui va les prendre en charge de A à Z.
Mais en même temps, vous ne pouvez jamais accéder à ce luxe. Vous êtes au service du luxe, mais sans mais jamais
si.
Pouvoir.
Mais si.
Vous pouvez dormir dans...
Oh non, on ne peut pas dormir, mais on peut visiter quand même. Voilà.
C'est déjà arrivé, dormir. Quand vous finissez un service, Alors, il y a la loi qui veut que vous devez respecter tant de temps entre une fin de service et un début de service. Mais des fois, l'exigence du travail fait que vous finissez un service à, je vais dire, minuit, 1h du matin, parce que des clients sont restés, veulent que le service se continue. Et le lendemain, vous devez réattaquer à 6h30, 7h du matin. L'hôtel se propose de vous faire dormir des fois dans des chambres. Moi, en l'occurrence, ça m'est déjà arrivé de dormir plusieurs fois dans des chambres où j'ai l'habitude d'aller servir. Là, je me retrouvais à être... On ne se sent pas dans son élément. C'est aussi une réalité. On ne se sent pas dans son élément. On ne se sent pas à sa place. Mais ça fait plaisir quand même. Chacun sa place. Ça, c'est aussi une réalité. Oui. Mais je vois être beaucoup, que vous êtes beaucoup intrigué par ce sens du service. Il ne faut pas voir cette image du domestique servile qui se plie aux ordres. Non, c'est un métier comme un autre. On est au service de... Moi, ce qu'on m'a appris dès le début, quand j'ai commencé RUT, c'est de dire on doit retirer le problème du client. On doit prendre en charge son problème. Voilà, déballer une valise. Je donne des exemples basiques, mais c'est ça. Un ourlet qui est défait dans l'urgence.
Faire un lacet.
Oui, faire un lacet, refaire un bouton, reprendre un bouton. Des petites choses qu'on ne sait pas obligatoirement faire. Là, à travers cette école-là, on apprend tous ces petits détails.
Est-ce que vous devrez habiller aussi les personnes éventuellement?
Voilà, avoir l'œil pour habiller le client. C'est pas évident à dire parce qu'il y a tellement de petites tâches,
ouais.
Voilà, qui font que c'est quand vous êtes devant le client, vous voyez, quand il est dans le doute, de comprendre ce doute et d'arriver à se dire il a besoin de ça, il lui manque ça. Il faut toujours anticiper, mais bon, comme dans beaucoup de métiers, mais il faut toujours anticiper, aller au-devant.
Comment vous adressez à lui alors ou à elle? Comment...
Ben, ça dépend si c'est un titre de noblesse, si c'est monsieur, madame, tout simplement. Tout simplement, après, s'il y a des titres de noblesse, il faut savoir les appeler son excellence. Voilà, il y a différentes manières de s'adresser au client. Voilà. Ben ça, on l'apprend aussi. On l'apprend aussi, oui, tout à fait.
On est en retard sur le planning, tout le monde à table.
Ouais. Allez,
c'est Madame est servie.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gomme. Ça demande des boîtes urbaines, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je sors avec Sacha, je suis fier du résultat. Je suis snob, je suis snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais sans m'ennuyer, je l'ai tourné de l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. Ah, ah. J'ai une foudroyante garde-robe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai de chez Dior.
On est à Paris, dans le 16e arrondissement, à la porte d'Auteuil. On va chez Madame de Miramont. Il y aura également Madame de Valroger et nos majordomes. Alors, je me trouve devant le 15 bis. Voilà, alors il y a un code. De Miramont. Oui, bonjour, c'est Anaëlle Verzo. Oui ? C'est ici. Oh, je ne sais pas si j'ai la tenue adéquate. Ah, bonjour.
D'ailleurs, il en manque encore deux, mais allez-y, venez.
D'accord, entrez. Merci beaucoup.
Voilà, donc on vient de rentrer du théâtre il y a un quart d'heure.
Voilà, donc ben, je vais refermer.
Voilà. Bonjour.
Bonjour Anaëlle, ça va?
Oui, ça va. Bon,
très bien, très bien.
Je suis en tenue de journaliste.
Oui, 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 bien sûr, c'est ce qu'il faut, c'est bon. Dans votre métier.
Vous êtes bien, oui. Bien habillée.
Ben, vous êtes gentille.
Je vais aller voir la table. Je vais dans le couloir, il y a une horloge dans un coin, des chiens en faïence.
Ben voilà, comme ça alors, tu veux. D'accord. Ou alors sinon, on les met là.
Oh, la belle table. Oh.
Voilà, alors Raphaël et Véronique sont en train de faire la dernière ligne droite de la mise en place. Ils viennent de placer toutes les entrées sur la table.
C'est voilà. Un service en argent
ou alors tout le service est bien sûr en argent. C'est une argenterie de famille qui est chiffrée, qui est même armoriée.
Il a envoyé une lettre, gravée. Voilà.
Et l'ensemble des deux lettres est couronné parce que quand il y a un titre dans une famille, eh bien, on superpose le chiffre avec la couronne qui correspond au titre de la famille. Donc, quand on est par exemple dans une famille qui est avec un compte, comme c'est le cas ce soir, eh bien, le service est chiffré et couronné. De la couronne de comte.
Voilà. Ah là, on voit sur la fourchette.
Voilà, on met sur la fourchette les armes des deux familles.
Et là, alors, on va vous décrire cette très jolie table, très longue comme ça, avec combien de personnes? 2, 4, 6, 8.
Là, je crois qu'il y a 19 couverts. Voilà.
Et là, donc, c'est une nappe. Est-ce que vous pourriez décrire la table, Madame de Valroger?
Eh bien, c'est une table qu'on a choisie un peu. Je dirais plutôt quand même un peu simplifié parce que ce soir c'est un dîner d'après-théâtre donc on ne fait pas un grand couvert. On a mis une très belle argenterie de famille mais on a choisi de mettre des assiettes de porcelaine blanche avec un bord doré et on a choisi de mettre un service de verre moderne à colorer aux couleurs de la nappe. La nappe représente des gros nœuds dans un tissu contemporain sur fond blanc avec des nœuds verts. Voilà.
Vous allez passer à table. Et là, on a une très belle peinture sur la gauche du 18e, non?
Oui, ce sont des peintures de famille. C'est un portrait de famille qui représente une grand-mère de la famille avec un des enfants qui doit être une arrière-grand-mère du maître de maison qui nous reçoit ce soir. Voilà.
Alors, on est chez vous, Madame de Miramont?
Oui, exactement.
C'est pas votre prénom?
Yvonne.
Donc, ce soir, vous avez des majordomes qui sont là pour faire le service, c'est ça?
Eh bien, oui. C'est mon amie Caroline de Valroger qui les a fait venir de son école parce que ils sortent d'un métier un peu différent, je crois, à l'hôtel de Ritz et qu'ils ont besoin de se reformer pour trouver quelque chose en sortant du Ritz qui, malheureusement, est fermé pour l'instant.
Habituellement, vous avez des majordomes chez vous aussi?
Non. Quand j'ai un dîner comme ça, quand on est un peu nombreux, je prends quand même quelqu'un pour servir. Mais je prends une femme de ménage qui sait faire le service, point final. On vient de familles qui ne peuvent plus prendre de majordomes. Mais il nous reste encore tout un passé. Il nous reste encore tout un passé, je dirais, d'une certaine éducation raffinée, d'un certain objet d'art dont on est tous les uns comme les autres ici entourés. Tout ce que nous sommes là, nous sommes tous des familles et des personnes habituées à recevoir, avec les mêmes codes. Vous voyez là, par exemple, le monsieur, le serveur, le majordome, allait remplir les coupes à l'avance. Je lui ai dit non, dans un salon, on donne à chacun sa coupe et on le sert après. Des codes qui ne veulent rien dire, mais qui sont le savoir-vivre des salons. Le protocolaire, maintenant, pour nous, c'est de mettre les gens les plus âgés à l'honneur. Sauf, bon, moi, à la campagne, quelquefois, j'ai à recevoir du un peu, genre, préfet. Évidemment, je ne mets pas le préfet au bout de table. Il représente le gouvernement français.
Ça vous arrive de recevoir le préfet?
En province, oui. Tout le monde connaît son préfet, tout le monde connaît... Enfin, tout le monde, attendez. Tout un certain niveau social. Pour des dîners, en général, de politesse.
Pour entretenir des relations...
Pour entretenir des relations agréables avec des personnes qui, dans le département, sont agréables à connaître.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je fais un reportage sur les majordomes.
Quand je pense que mon grand-père avait un maître d'hôtel, et quand la guerre de 40 a été déclarée, mon grand-père a donné un petit sac d'or à son fils aîné et à son maître d'hôtel qui partaient tous les deux à la guerre, en leur disant « au moins, avec de l'or, vous pourrez toujours vous débrouiller partout ». Et il a donné la même somme à son fils aîné et à son maître d'hôtel. C'était une autre époque.
Et désormais, vous n'avez pas de majordome, pas de maître
d'hôtel ? Non, pas de maître d'hôtel et nous n'avons pas de domestique à la maison. Ce que je regrette beaucoup d'ailleurs parce que ça rendait la vie extrêmement agréable. Enfin, j'ai connu chez ma grand-mère, effectivement, cette ambiance du domestique, c'est un mot qui n'est pas très sympathique, je trouve.
Bien sûr. Oui, moi, je me rappelle, chez mes grands-parents, on peut appeler ça une bonne, est arrivée à la naissance de mon père, et jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée à la maison.
Moi, je racontais... Il n'y avait pas de sécurité sociale, autrefois. Les domestiques que vous aviez pendant 50 ans, ils ne pouvaient pas être à la retraite, ça n'existait pas.
Non.
Si
non,
on
non.
les mettait dehors, ils crevaient de faim.
Mais
on était la sécurité sociale de tout un village.
Très malheureux, je racontais à mademoiselle que...
Ça existe encore.
Ah ben, c'est pour ça qu'ils apprennent ces métiers, c'est pour ça qu'on les a là aujourd'hui. Mais ça ne sera pas nos familles, ça sera la nouvelle aristocratie de maintenant, qui est une aristocratie d'argent, qui sera celle des finances, des people,
c'est-à-dire aujourd'hui,
des gros industriels,
aujourd'hui,
c'est plus la nôtre.
Aujourd'hui, l'argent a changé de main. Et en fait, ceux qui achètent en France toutes ces grandes propriétés, tout ça, ce sont des gens qui ont réussi, soit dans l'industrie, dans la finance... Ce sont des gens brillants à qui on doit beaucoup, parce que c'est eux qui font vivre la France. Hein. Moi, j'ai de l'admiration pour eux. Hein.
Par exemple, Liliane Bettencourt, elle avait, par exemple, deux majordomes.
Oui, mais elle fait vivre la France aussi. Oui, si elle s'en va, gagner de l'argent, c'est difficile. La conserver, c'est peut-être aussi difficile. Et elle l'a quand même conservée. Hein.
Non, mais attends, Liliane Bettencourt, elle a des propriétés du côté de Saint-Prix, avec du personnel qui est sur place, elle les fait vivre.
Elle fait vivre la France.
Elle fait vivre la France aussi, parce que...
Parce que si tous les gens qui ont de l'argent quittent la France, les pauvres vont mourir. Les pauvres vont mourir. Hein. C'est pas en appauvrissant les riches qu'on enrichira les pauvres. Hein.
Quand les riches maigrissent,
les pauvres meurent.
Non, quand les gros maigrissent, les maigres meurent.
Oh, merci.
Ah, papa, plus le champagne qui va déborder.
Plus il y aura de riches, mieux on vivra. Et si on les laisse partir, c'est la catastrophe.
Là, en ce moment, c'est les paradis fiscaux. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas, mais ils font partir.
Oui, mais ça, c'est des malhonnêtes. Hein. C'est pas eux qui font vivre la France. Hein. Ils vont planquer leur fric. Non, mais les industriels, tout ça.
Serge Dassault.
Voilà, mais il en faudrait beaucoup, des gens comme ça. Hein. Eh oui. Mais alors, on les monte du doigt, on leur pique leur fric. C'est pas bien.
Vous avez un château dans le Cantal.
Oui.
C'est terminé.
Et vous y vivez pas ?
Si, j'y vis plusieurs mois par an, mais pas tout le temps.
Le reste du temps, vous vivez où ?
Ça dépend. En ce moment, je vis à Versailles.
Il faut les encourager, ces gens qui sauvent notre patrimoine. Oui. Parce qu'en France, ce sont les privés qui entretiennent en partie notre patrimoine, il faut bien le dire. Hein. Et en fait, et en plus, ils sont pressurés par les impôts, alors... On devrait les décorer.
On n'en voit plus guère une espèce qui disparaît très rapidement.
Même les Bretonnes.
Même les négresses.
Forcément, chère Madame Durand, ces filles, on les a toutes pourries.
C'est elles maintenant qui font la loi.
Pensez, la nôtre était nourrie et logée, plus l'argent du mois.
Aussi, il ne faut pas qu'on s'étonne.
On a tout fait pour les gâter.
On était trop bons pour les bonnes.
Vraiment, c'est à vous dégoûter.
Moi qui suis faite pour être patronne et déployer de l'autorité, eh bien, quand je sonne, il vient personne.
Car il n'y a plus de bonnes. Quelle société.
Pensez chez moi, j'en ai eu 16. Je leur faisais un petit nid coquet, un lit, une table, une lampe, deux chaises. Ça donnait sur les cabinets. Évidemment, ça manquait de vue, on n'y voyait jamais le soleil, mais...
Mais la nuit, c'est chose superflue.
Surtout avec un bon sommeil. Et quand le réveil carillonne, au point du jour joyeusement, sachant que le soleil rayonne devant dans tout l'appartement, on se lève et l'on se savonne avec Luxel, évidemment. Le soleil, lui, le gaz ronronne.
Ben, il n'y a plus de bonne, sombre maman. T'as devait finir dans la débauche, selon la loi du moindre effort.
Oui. Tout ça, c'est la faute à la gauche, aux soviets, à Blum et consorts.
J'en ai reçu une cet automne qui m'a dit d'un air insolent, bonne à tout faire, moi je suis pas bonne. Elle est partie en ricanant.
La morale, je vous l'abandonne. La base du régime bourgeois, son piédestal, c'était la bonne. Sans elle, tout s'écroule à la fois.
L'office, le salon, la couronne, l'ordre, l'autorité, la loi. Y a plus de bon Dieu,
il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus de bonne, il n'y a plus de bourgeois.
Bonjour monsieur. Je cherche l'entrée du bar La Pérouse, oui, du restaurant. Là. Ah, c'est là. Ouais. Merci. Vous savez où se trouve le salon Astrolabe?
Dans La Pérouse.
Ouais.
Pas du tout, il faut demander au.
Il faut demander à l'accueil. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'est l'examen, là, aujourd'hui. On monte à l'étage. C'est là-haut que ça se passe, hein, Sébastien?
Tout là-haut. C'est un labyrinthe.
C'est doré sur les murs. Là, il y a une petite pièce. C'est plein de toutes petites pièces, quoi, comme des petits salons.
Ben, je pense qu'avant, c'était une maison de plaisir.
Là, c'est les vestiaires. Là, c'est autour de Sébastien. Sébastien est devant la table du jury, en train de prendre un petit morceau de papier.
Glaçage d'une chaussure.
Le glaçage, ça veut dire cirer. Alors Sébastien sort les chaussures de la valise.
C'est une brosse matérielle, là. Alors la graisse.
Il y a beaucoup de cirage, hein. Beaucoup de peaux différentes. C'est une chaussure noire.
Voilà, ça c'est pour lustrer.
Qu'est-ce que vous allez faire en premier?
Alors en premier, je voulais prendre la brosse à décrottoir.
S'il vous plaît,
avant
de commencer.
Alors, en premier, j'allais
enlever. C'est un décrottoir. En quoi vous voyez que cette brosse est un décrottoir?
C'est cette brosse qui est un décrottoir. Voilà, qui est avec un poil
merci.
Dur. Je préfère une éponge pour la semelle et un décrottoir. Et éventuellement un petit chiffon humidifié, mais alors légèrement, pour avant voilà. De passer la graisse.
Alors, quand on n'a pas ces brosses-là, de quoi se sert-on?
Mais le décrottoir, madame, ou une brosse à dents.
Voilà.
Une brosse à dents. Donc, une fois que le cirage a pénétré dans la chaussure, je prends cette brosse et par léger geste, un mouvement régulier, comme ça, et en douceur, je fais lustrer le cuir.
C'est pas une brosse à lustrer.
Ok. Si on peut pas passer le cirage avec...
Alors c'est une brosse à cirer. Les petites brosses rondes.
La brosse à lustrer, c'est celle-ci.
Voilà, c'est ça.
Le poil est le même, hein, non?
Toutes les chaussures ne sont pas glacées. D'abord, toutes les chaussures féminines. Si vous avez les chaussures de madame à cirer, jamais vous ne glacerez des chaussures pour madame.
Ouais. Je passe un petit coup d'éponge sur le lacet.
Voilà, c'est bien.
On patiente. On apprend la patience dans ce métier, et là, on patiente quoi.
Les diplômes sont disposés sur la table, dans la salle où ont lieu les épreuves. Il y a un lustre, deux lustres, et au plafond, une carte du monde. Voilà, vous avez tous aujourd'hui le niveau pour être majordome ou gouvernante. Alors après, ça sera peut-être dans des familles un petit peu différentes ou dans l'hôtellerie. Vous avez des qualités qui sont indéniables et qui feront le bonheur de famille ou de clients, si c'est le cas d'hôtel. Toutes nos félicitations à toutes et à tous.
Vous êtes des merveilles tous. On aimerait vous avoir dans nos maisons. Et presque j'ai une émotion, vous voyez, de vous quitter. Vraiment.
Voilà.
Merci.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
Ben, vous voyez, j'ai une mention assez bien. Voilà. Alors, on m'explique que je suis bien sous tout rapport, mais que finalement, j'ai une personnalité trop bien. Alors, je leur ai répondu, une personnalité trop bien alors pour votre métier.
Et qu'est-ce qu'on vous reproche?
Écoutez, j'en sais rien.
D'avoir trop de personnalité, en fait.
Oui, voilà.
Il faudrait que vous soyez plus soumise.
Je ne sais pas, mais c'est frère. Une personnalité aussi forte. Mais bon, chez un homme, c'est revalorisé. Chez une femme, c'est trop. Surtout quand on est un jury de quatre femmes. Parce qu'elle me dit là que si je rentre dans une maison où il y a une femme, j'irai au clash. Parce que ça ne pourra pas fonctionner. Mais c'est elle qui porte leurs sentiments vis-à-vis de moi. Parce que moi,
il y a une extrapolation des jugements.
Des jugements, je trouve. Je voulais partir au bout de la deuxième semaine, j'aurais bien fait.
Et vous, comment ça s'est passé?
Oh, j'ai passable pour dire qu'on me l'a donné.
passable. Oui. Vous l'avez quand même, ça.
Oh oui. Mais je leur ai dit que mes objectifs ne sont pas les mêmes que mes collègues. Au mois de juin, je suis à la retraite.
Inès ?
Oui, c'est Inès, oui.
Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ?
Si je peux, puisqu'à la retraite, on peut travailler quand même à mi-temps. Je vais profiter pour travailler, pour ne pas me rouiller. Je ne veux pas être rouillée. Parce que pour moi, s'arrêter, c'est mourir.
Projet 8, pratique 8, théorie 6. Ouais, ça va. Bon, ça va, mention bien. Ouais, c'est super. Je suis content. C'est ma maman qui va être contente. Elle va être encore fière de son fils.
Mention très bien.
On verra le gouverneur de maison bientôt. Hein. Gouverneur général. Hein.
La joie de servir ou le bonheur de la soumission, c'était un reportage d'Annaëlle Berzot. Merci à Laurence Marceau, Elisa Elbaz, Madame Caroline de Valroger et Madame de Miramont. Merci à Sébastien Emmanuel, Jean-Paul Inès, tous les futurs majordomes et gouvernantes qui étaient en formation avec l'Académie des gouvernantes de ces 5 dernières semaines. Merci à tous à lire sur le sujet le numéro de la revue Agone, La joie de servir. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique programme, émission là-bas si j'y suis. Également sur le site la-ba.org où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Maxime Ingrand. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Radio France, partenaire de la 100e édition du Tour.
Dès maintenant et jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées, les radios de Radio France vous font vivre un Tour de France exceptionnel. Émission spéciale inédite, portrait de légende, découverte du patrimoine, partez avec nous sur toutes les routes du Tour.
La 100e édition du Tour, un événement à vivre dès maintenant sur les radios de Radio France, avec Le Parisien et Aujourd'hui en France. Plus d'infos sur radiofrance.fr.
Demain soir, IAM fête la sortie de son nouvel album Art Martien sur le Move. Ils sont fiers, passionnés, prêts à tout. IAM vous offre un concert unique. Concert privé d'IAM, demain dès 21h sur le Move, une radio du groupe Radio France.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Le dossier n'est pas fermé, assure le procureur, mais les désillusions n'en finissent pas dans l'affaire Grégory, toujours pas résolue près de 30 ans après les faits. Les résultats de nouvelles analyses ADN sur des cordelettes devaient être présentés aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'espoir, douché finalement par le procureur général de Dijon. Il évoque à l'instant des cordelettes très très difficilement exploitables et l'impossibilité de mettre un nom sur les profils ADN relevés. La mort du petit Grégory retrouvé sans vie dans la Vologne en 1984 demeure donc toujours un mystère. PSA, Peugeot, Citroën comptent bien démarrer au mois de mai des négociations sur la compétitivité en France. Philippe Varin espère, dit-il aujourd'hui, un accord à l'automne sur cette question, alors que le groupe a annoncé aujourd'hui des résultats moroses pour le premier trimestre. PSA, dont le site d'Aulnay-sous-Bois fermera bien comme prévu l'an prochain et non cette année, la direction en fait la promesse, alors qu'une hypothèse de fermeture anticipée avait été évoquée dans la matinée par le directeur financier du groupe. Déclaration qui a, pendant quelques heures, provoqué la colère des syndicats. Les salariés de Florange gardent comme un goût amer en travers de la gorge, comme annoncé hier par la direction. La procédure d'extinction des hauts fourneaux a débuté aujourd'hui. Complètement dépité, une vingtaine de représentants syndicaux ont déposé cet après-midi sur le site de Florange où les hauts fourneaux ont commencé à être éteints. Une stèle en mémoire des promesses non tenues de François Hollande. Un honneur, entre guillemets, auquel avait déjà eu droit son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Il ne fait pas l'unanimité au sein même de la majorité, le plan sur la transparence en politique est lancé. 4 textes seront présentés au Parlement au mois de juin. En attendant, ils ont été présentés, ces textes, en Conseil des ministres aujourd'hui. Les nouvelles règles incluent notamment la création d'une haute autorité chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt des ministres et des parlementaires. François Hollande veut s'en convaincre. Il s'agira d'un tournant, dit-il, dans nos institutions. Rachida Dati n'aura pas obtenu gain de cause. L'ex-garde des Sceaux, qui réclamait l'interdiction de publication d'une bande dessinée à paraître demain, était déboutée par le juge des référés de Versailles aujourd'hui. La BD en question la mettait en scène, elle et sa fille Zora, 4 ans. L'auteur de l'album de 48 pages traite sur le ton de l'humour et de la caricature la recherche de paternité de l'enfant de Rachida Dati. Enfin, il sera bientôt possible de se rendre en train à Londres depuis le sud de la France sans avoir effectué de changement. Eurostar va expérimenter à partir du 4 mai prochain une ligne Londres-Lyon Aix-en-Provence chaque samedi jusqu'au 29 juin. Un train Eurostar effectuera l'aller-retour et ce à partir de 109 euros. La ligne en elle-même devrait être opérationnelle d'ici 2 ans.
On aura tout vu et surtout ce film-là, Mud, de Jeff Nichols.
Rencontre avec un jeune cinéaste américain, talentueux, enthousiaste et généreux.
Don't need to be afraid of me. I got two ways to protect myself out here. This shirt and this pistol.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
We gotta take advantage where we can.
Avec Christine Masson.
Y'all coming?
Et Laurent Delmas.
France Inter.
La voix est libre.
France Inter, il est 6h04 bientôt. Tout de suite, vous retrouvez Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
On vous retrouve à 17h, vous, pour les informations, Maxime Debs. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, nous sommes à l'époque de la rapidité érigée en système et pourtant l'esprit rapide, ça a toujours existé. Par exemple Robert Schumann qui était traversé de nombreuses pensées, sentiments, parfois contradictoires, c'était un esprit très fébrile. Dans sa deuxième sonate pour le piano, il dit beaucoup de choses en 1 minute 44. Oui, vous allez voir, vous allez l'entendre surtout, il s'agit du scherzo. Tout est dit, un scherzo d'une minute 44 pour la deuxième sonate pour le piano de Robert Schumann, interprétée avec beaucoup de belle énergie par Lydia Bisiak. Et cette époque de rapidité n'empêche pas de revenir en arrière, de retrouver des compositeurs d'autrefois, comme Gaspard Sanz par exemple, guitariste, et qui a repris des musiques encore plus anciennes, comme par exemple Canarios, donc des musiques d'esclaves, des esclaves qu'on avait importés évidemment de force contre leur gré. Tout ça a bien rappelé quand même aux Canaries. mari et le chef d'orchestre, et en même temps joueur de viol de gambe, Fahmi Alkaï, a repris cela. Donc on peut attribuer la paternité, ce qu'on va entendre, à ces deux auteurs. Mais surtout à Gaspard Sanz, c'est de la danse, c'est ponctué par des instruments à percussion. Quant à notre ami Alkaï, il est en plus ce joueur de viol de gambe, je l'ai dit, mais il a proposé ce disque très joli, Redécouvrir l'Espagne, Rediscovering Spain, et c'est publié de manière très très jolie par Glossa Platinum.